Bonjour Yves Decamp.
Bonjour.
Une médaille de bronze pour les Bleus au Mondial de basket, la deuxième de suite. Les Français se sont repris ce matin en battant l'Australie 67-59, en attendant maintenant les JO de Tokyo. Y aura-t-il des conséquences sur les cours du brut ? L'Arabie Saoudite, victime d'une attaque de drone sur deux de ses principaux sites pétroliers, annonce une réduction de moitié de sa production. Quel président pour la Tunisie ? Premier tour aujourd'hui de la deuxième élection présidentielle démocratique dans l'histoire du pays. 26 candidats et une probable importante abstention. Dans ce journal également, la mort du petit Nolan, 11 ans, contaminé en 2011 par la bactérie E. coli contenue dans un steak haché. Ne touchez pas à nos retraites, avocats, médecins, hôtesses ou stewards. Des professionnels de plusieurs secteurs se regroupent en collectif pour dénoncer les propositions du rapport Delvoye. 50 millions pour construire ou prolonger les pistes cyclables dans une centaine de villes, un an après le plan vélo lancé par le gouvernement. Où en est-on ? Ce sera le droit de suite de ce dimanche 13h.
France Inter.
Une production de pétrole réduite de moitié en Arabie Saoudite, c'est la conséquence des attaques de drones revendiquées par les rebelles yéménites hier sur deux sites du géant pétrolier Aramco, la troisième série d'attaques en 5 mois. Sur les deux sites incendiés, toute activité a été provisoirement suspendue, ce qui représente environ la moitié de la production nationale, près de 6 millions de barils par jour. Alors, quelles conséquences pour le marché? C'est ce que nous explique Jean-Pierre Favennec, expert à l'Institut français du pétrole. Il est au téléphone de Nadine Epstein.
Juste rappeler une chose, c'est que en gros, la production et la consommation de pétrole journalière, c'est de 100 millions de barils par jour. Et là, l'Arabie Saoudite en produit environ 12%. Et là, c'est pratiquement la moitié de la production d'Arabie Saoudite, donc 5 à 6% de la production mondiale de pétrole, qui donc ne sera plus sur les marchés, au moins pendant quelques jours, le temps de réparer. Donc c'est un événement effectivement important. Les quantités en jeu sont tout à fait spectaculaires.
Quel impact ça risque d'avoir sur le prix du pétrole ?
La diminution de la production d'Arabie Saoudite peut être assez facilement compensée pendant quelques temps. Mais si la situation dure et si on a une augmentation du prix du pétrole, automatiquement ça se traduira par une augmentation du prix de l'essence à la pompe. En fonction de l'évolution de la situation, si c'est un retour rapide à la normale, pas de souci, le prix de l'essence ne bougera pas beaucoup. Si ce sont les prémices d'une crise plus grave, bien entendu, on risque d'avoir une augmentation du prix du pétrole et donc de l'essence.
Pour les Américains, l'attaque qui visait à perturber l'approvisionnement énergétique mondial aurait été téléguidée par l'Iran, qui réfute toute responsabilité dans cet épisode, accusant au contraire les États-Unis d'essayer de justifier des actions futures contre l'Iran. Une présidentielle à suspense en Tunisie, la deuxième présidentielle démocratique dans l'histoire du pays, pionnier du printemps arabe, 7 millions d'électeurs, 26 candidats, dont le premier ministre, un magnat des médias incarcéré pour blanchiment, ou encore le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Également en compétition, le ministre de la Défense, propulsé sur le devant de la scène par le président Essebsi, décédé en juillet dernier. Bref, tout reste ouvert et pourtant, Maureen Mercier, vous êtes notre correspondante à Tunis, devant un bureau de vote où les électeurs ne semblent pas se bousculer pour l'instant.
Oui, c'est bien toute la question. À quel point les Tunisiens iront-ils voter aujourd'hui ? Je me suis rendue dans 3 bureaux de vote différents ce matin. Les gens arrivent au compte-gouttes. La moyenne d'âge pour l'heure des électeurs est franchement élevée. Autant dire que les jeunes ne se pressent pas au portillon. Énormément de ces jeunes ont d'ailleurs décrété qu'ils n'iraient pas voter. C'est ce que me disait ces derniers jours la grande majorité de ceux que j'ai pu interroger. Parce que depuis 2011, ils estiment que la classe politique a au mieux rien fait. Au pire, elle a contribué à ce que la situation se dégrade. Plus encore, voilà ce que me disait un jeune homme pour expliquer le fait qu'il ne fallait pas compter sur lui aujourd'hui. Il y a donc un fort risque d'abstention.
Et donc l'abstention, mais aussi les candidats populistes pourraient se distinguer dans cette élection.
Oui, ce sont peut-être bien ces candidats qui hériteront des voix des mécontents qui iront tout de même voter. Les populistes sont arrivés aussi soudainement que puissamment sur la scène politique. Les Tunisiens avouent très franchement être aussi un peu perdus. 26 candidats, une campagne qui n'aura duré que 2 semaines. Le décès de l'ex-président Béji Caïd Essebsi a chamboulé tout le calendrier. Il a fallu tout resserrer. Bon nombre d'électeurs avouent ne pas savoir pour qui voter quelques minutes avant d'aller glisser le bulletin dans l'urne. On choisira au dernier moment. On va d'abord déjeuner. Ce sont les mots d'une mère de famille qui hésite encore et qui repousse un peu le passage au bureau de vote, le temps de débattre avec ses proches.
Maureen, merci à Tunis. Les résultats officiels ne seront pas annoncés avant mardi. En Israël, c'est mardi aussi qu'auront lieu les législatives. Pas gagné d'avance pour Benjamin Netanyahou, le Premier ministre cerné par les affaires et qui met le paquet pour les tout derniers jours de campagne. C'est dans une colonie au cœur de la vallée du Jourdain qu'il a tenu ce matin son conseil des ministres. Région stratégique qui représente près d'un tiers de la Cisjordanie occupée et qu'il a promis d'annexer en cas de victoire. Promesse qui vise à capter bien sûr le vote des colons, bien qu'elle ne change rien à la réalité, puisque le processus d'annexion est déjà bien avancé, en tout cas du point de vue des Palestiniens, comme l'a constaté dans les territoires Marine Vlaovic.
C'est une petite source du sud de la vallée du Jourdain. Elle jaillit au milieu d'un terrain désert, regrette Hamza Zbeidat de l'ONG palestinienne Ma'an.
Les Israéliens ont mis trop 4 turbines. Ils pompent l'eau pour les colonies et les avant-postes de la région.
L'eau, mais aussi les terres et les axes routiers. Une grande partie de la région est sous le contrôle d'Israël depuis 1967. Et cette annexion est déjà une réalité, insiste Hamza.
C'est déjà annexé. L'autorité palestinienne ne peut rien faire dans une grande partie de la vallée du Jourdain. 90% des terres sont sous le contrôle total d'Israël et des colons.
Une zone où vivent près de 9000 bédouins dans des campements de fortune, comme Alima, qui craint désormais d'être expulsée.
Où est-ce qu'on ira ? Je vis ici depuis 40 ans. Où est-ce que je vais aller ?
L'État hébreu n'a jamais caché son intention de faire de cette région, fertile et stratégique, une frontière militarisée. David El-Riani, qui est à la tête du conseil local des 8000 Israéliens répartis dans une trentaine de colonies agricoles de la vallée, y croit dur comme fer.
La vallée du Jourdain doit être placée sous souveraineté israélienne par sécurité.
Plusieurs pays européens, dont la France, se disent très préoccupés par la promesse électorale de Benjamin Netanyahou. Dans la vallée du Jourdain, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Des milliers de manifestants à Hong Kong, comme tous les dimanches, mais cette fois c'est devant l'ambassade britannique que se sont rassemblés les manifestants pour demander son soutien à l'ancienne puissance coloniale face au régime de Pékin. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Et puis c'est reparti pour l'Ocean Viking, le bateau SOS Méditerranée. Après avoir fait débarquer 82 migrants à Lampedusa, il reprend la mer vers la Libye. Les migrants enregistrés durant la nuit seront accueillis par 5 pays européens, y compris l'Italie, dont le gouvernement et la politique ont changé.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Allez, une fois n'est pas coutume, un peu de sport tout de suite avec la médaille de bronze obtenue par l'équipe de France de basket ce matin. L'équipe de France qui s'est reprise après avoir déjoué face aux Argentins en demi-finale. Vincent Pellegrini, les Bleus l'ont emporté 67-59 devant l'Australie après avoir été menés de 15 points.
Oui, la rencontre était effectivement très mal engagée pour les Bleus, apathiques, en manque cruel d'adresse. Ils ont été longtemps dominés par l'Australie, 9 points de retard à la pause, seulement 21 points inscrits en première mi-temps. Les Français étaient effectivement menés de 15 points au début du troisième quart-temps avant de se relancer sous l'impulsion notamment de Nando De Colo et du capitaine Nicolas Batum. Des Bleus transfigurés, le dernier quart-temps a été entièrement à leur avantage. Ils s'imposent de 8 points, 67-59, et montent, comme lors de la précédente Coupe du Monde, sur la troisième marche du podium.
Un bon bilan, somme toute, pour les Bleus dans ce mondial.
Oui, une médaille de bronze, la deuxième de l'histoire du basket français. Les Bleus, comme il y a 5 ans, ont su surmonter la déception de cette demi-finale perdue face à l'Argentine, signe que cette équipe pas du caractère. On retiendra aussi bien sûr cette victoire historique face aux États-Unis en quart de finale qui a marqué les esprits. On peut aussi saluer une continuité dans les résultats, 2 podiums mondiaux de suite, un titre de champion d'Europe il y a 6 ans, et puis cette place dans le dernier carré de cette Coupe du Monde les qualifie pour les JO de Tokyo l'an prochain. Les basketteurs français y disputeront leur 3e tournoi olympique consécutif.
Vincent Pellegrini, la finale c'est tout à l'heure Argentine-Espagne. Il était tombé malade en 2011 après avoir mangé un steak haché contaminé. Il avait alors 23 mois. Le jeune Nolan, aujourd'hui âgé de 11 ans, est mort hier matin dans l'Oise où il avait été hospitalisé pour une forte fièvre. Pour sa famille, il ne fait aucun doute que sa mort est liée à cette intoxication par la bactérie E. coli qui avait entraîné chez Nolan de lourdes séquelles neurologiques. Depuis cette époque, son état n'avait cessé de s'aggraver, comme le dit à France Bleu Nord l'avocate de la maman, maître Florence Rowe.
Ça ne fait aucun doute que ce décès est lié et la conséquence tout à fait directe de la contamination à la bactérie Escherichia coli, dont beaucoup d'enfants d'ailleurs ont été victimes, mais pas dans des proportions aussi dramatiques que pour Nolan. Bien sûr qu'il n'y a absolument aucun doute que c'est la conséquence tout à fait directe. Depuis cette contamination en 2011, son état de santé n'a cessé de se dégrader, c'est-à-dire que de nouvelles pathologies sont apparues, que les fonctions vitales se sont évidemment affaiblies au fur et à mesure que le temps passait, et son état général n'a fait qu'empirer en réalité.
Voilà, 18 personnes avaient été contaminées par cette bactérie E. coli. L'ancien dirigeant de la société fournisseuse d'Estec avait été condamné en 2017 à 3 ans de prison, dont 2 fermes. En politique, à 6 mois des municipales, la maire de Paris, Anne Hidalgo, en tête des intentions de vote. Sondage IFOP fiducial pour le JDD. Si les Parisiens votaient aujourd'hui, elle obtiendrait 24% des suffrages au premier tour, contre 17% pour Benjamin Griveaux, le candidat à La République En Marche, talonné par son rival Cédric Villani, 15%. La liste des Républicains emmenée par Rachida Dati ferait 14%. La liste Europe Écologie Les Verts de David Béliard, 13%. Tous les autres sont très loin derrière. Mais rien n'est encore joué pour les municipales, ni à Paris, ni ailleurs. De nouveaux candidats pourraient encore brouiller les cartes dans de nombreuses villes où de nombreux citoyens s'interrogent sur l'éventualité de présenter des listes hors parti. À Toulouse, par exemple, 500 personnes se sont réunies hier samedi pour y réfléchir. Sur la base d'un programme écologique et social, un collectif de militants associatifs baptisé Archipel Citoyen. Alain Gastal était à sa première assemblée générale.
Ce sont des ateliers interactifs. L'idée, c'est d'instaurer la démocratie permanente.
Et la démocratie permanente, ça commence par une quinzaine d'ateliers avec autour de chaque table une vingtaine de participants. Mieux se nourrir, se cultiver, vivre ensemble. Paul a choisi l'atelier déplacement pour faire connaître sous forme de post-it sa proposition.
J'ai marqué de créer une zone sans voiture qui s'étend à tout le centre-ville. Mais après, ce que j'ai envie, c'est de confronter cette idée et de voir ce qui peut en ressortir de constructif tous ensemble.
Toutes les propositions ne seront pourtant pas retenues. Seules celles qui sont consensuelles, non clivantes et applicables immédiatement figureront dans le programme. Maxime, un des initiateurs d'Archipel Citoyen.
L'idée, c'est de dégrossir des pistes, mais après, d'organiser une consultation via ce qu'on appelle, nous, des assemblées citoyennes décisionnaires, avec des moyens qui seront les moyens de la métropole et de la mairie.
Une fois que vous serez élu.
Exactement.
Donc vous irez au scrutin avec un programme qui ne sera pas définitif, quoi.
Non, ce serait mentir aux Toulousains de dire nous sommes pour la démocratie permanente et de tout ficeler à l'avance.
Côté candidat, ils sont déjà 9. Violaine a été tirée au sort et a donc accepté de figurer sur la liste.
Je suis ingénieur chef de projet, je sais ce que c'est que faire des choix, donc je me suis sentie totalement capable de pouvoir rentrer dans ce genre de groupe.
Et si Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise soutiennent la démarche, en tant que telle, ils n'y participent pas. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Et des démarches comparables sont signalées notamment à Nantes ou Montpellier. Ne touchez pas à nos retraites, c'est le sujet principal de la rentrée sociale. Décidément, les retraites dont la réforme suscite beaucoup d'inquiétudes. Ce matin encore, dans le JDD, c'est un collectif représentant 700 000 professionnels des secteurs de la santé, de la justice et des transports qui dénonce une captation de leur régime autonome. Parmi les signataires, maître Christiane Ferralschul, présidente du Conseil national des barreaux, elle est au téléphone de Sébastien Sabiron.
Le régime autonome que nous avons est un régime qui a été auto-alimenté par les avocats, donc la gestion a été bonne. Nous avons aujourd'hui de quoi garantir 60 années de pension devant nous. Aujourd'hui, en nous proposant de fusionner avec le régime universel, on double nos cotisations et on réduit en même temps nos pensions. On est perdant sur tous les tableaux, alors même que nous avons un régime autonome qui n'est financé par personne d'autre que nous et qui joue parfaitement son rôle. Comment est-ce qu'on va assumer cette augmentation? Ça va se répercuter nécessairement sur la gestion des cabinets avec les risques de suppression d'administratifs. On emploie 45 000 personnes aujourd'hui. Il y a tous ceux qui envisagent de quitter la profession. Il y a le risque des déserts judiciaires qui se profilent. C'est quand même l'avenir de l'exercice libéral qui est notre préoccupation.
Voilà, les avocats, les médecins, les kinés, les stewards, les hôtesses, le collectif SOS Retraite manifestera demain à Paris contre les propositions du rapport Delvoye. 44 millions d'euros pour les pistes cyclables, c'est la suite du plan vélo lancé il y a tout juste un an par le gouvernement pour aider les collectivités à développer les mobilités douces, mais aussi les entreprises à indemniser les salariés cyclistes. Sur le modèle de l'indemnité transport, les salariés allant au travail à vélo pourraient être récompensés, mais pourraient seulement, car le forfait vélo n'a pas été rendu obligatoire. Ce plan vélo, doté de 350 millions d'euros sur 7 ans, entre donc dans sa deuxième année avec Quel bilan ? C'est le droit de suite de ce journal, Claire Chaudière.
En un an, la première enveloppe de 50 millions d'euros de ce fonds vélo destiné aux infrastructures routières n'a pas encore été dépensée. Les collectivités candidates reçoivent ces jours-ci leur réponse. L'enjeu est de taille dans les villes moyennes, mais aussi dans la capitale, estime Joël, cycliste parisien, casque vissé sur la tête, sacoche dans un panier.
J'utilise de plus en plus parce qu'effectivement, il y a ces pistes cyclables.
6 heures de vélo par semaine pour le boulot, il y a du mieux côté piste cyclable, dit-il, mais encore beaucoup de trous dans la raquette.
C'est extrêmement embêtant parce que d'un seul coup, on se retrouve en plein milieu de la circulation. Je pense que la pratique du vélo se développera lorsqu'il y aura possibilité de vraiment faire des circuits de plus en plus longs à vélo.
Ces derniers mois, le nouveau plan a aussi financé l'élaboration de schémas de circulation à vélo dans les petites villes où l'on partait d'une feuille blanche, explique Olivier Schneider de la Fédération des usagers de bicyclettes.
Succès incroyable avec 300 petites collectivités qui ont demandé à être soutenues. Ça, c'est inattendu, inédit, au point que les bureaux d'études n'étaient pas prêts.
A contrario, déception autour de l'indemnité. Des vélos pouvant aller jusqu'à 400 euros dans les entreprises, facultatives et encore très rares, difficile même de trouver des cyclistes qui connaissent des bénéficiaires de la mesure.
Non, pas un seul.
Non, je connais pas du tout.
Même si, toujours selon la Fédération des usagers de bicyclettes, on progresse.
La prime vélo, elle doit être obligatoire, sinon ça veut dire que c'est un mode de transport qu'on considère moins. Néanmoins, on en voit quand même de plus en plus, alors je ne vous le cache pas, ce sont surtout de grands groupes. Il y a tout un foisonnement d'acteurs qui n'étaient vraiment pas des acteurs de l'écosystème vélo il y a encore 2-3 ans et qui là, dans la dynamique du plan vélo, s'y mettent.
Objectif pour le gouvernement porté à 9% d'ici 2024, la part des déplacements à vélo.
Invité de ce droit de suite, Pierre Cerne, président du club des villes et territoires cyclables, bonjour.
Bonjour.
D'accord avec ce bilan, globalement positif pour les pistes cyclables, plutôt insuffisant pour les salariés cyclistes?
Oui, on peut dire ça. Enfin, après, pour les pistes cyclables, ça dépend encore très très largement de la volonté des collectivités. Donc, il y en a où ça a bien avancé. Il y en a où on est encore très loin du compte. Et pour le coup, là, le plan vélo, il remplace pas la volonté politique qui peut y avoir dans telle collectivité par tel ou tel maire ou président d'agglomération ou de métropole. Donc c'est derrière, c'est de l'incitation, c'est aussi le simple fait que le plan vélo au bout d'un an, on en a beaucoup parlé il y a un an, on en a parlé pendant l'année, on en parle du fait des un an. À chaque fois que le vélo est dans l'actualité, à chaque fois que on en parle, qu'on en fait la promotion, c'est aussi des incitations symboliques et politiques aux acteurs à faire
et c'est
et,
un bon
et à faire, et à faire progresser.
C'est un bon sujet pour les municipales.
Ah, ça, c'est. Je pense que ça sera plus que jamais un sujet, la mobilité en général, mais la question du vélo en particulier, un thème qui va pas pouvoir être mis de côté pour les municipales. Il y a une demande qui est forte, il y a une attente qui est forte de la part des citoyens et des citoyennes, et les candidats aux municipales vont pas pouvoir faire autrement que de mettre ça à l'agenda dans les endroits où, en tout cas, où ça reste. Et où c'est problématique.
Mais 9% des déplacements qui se feraient à bicyclette en 2024, c'est l'objectif, hein, contre 3% aujourd'hui. C'est ambitieux, c'est réaliste.
Ah bah c'est très ambitieux au vu de ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en 5 ans, il faudrait multiplier par 3 la pratique du vélo. C'est très ambitieux, mais ça passera par vraiment une prise de conscience et une montée en puissance énorme, parce que il suffira pas, même si les 152 projets qui ont été annoncés comme soutenus financièrement par l'État hier, c'est très bien, hein, pour les un an du plan vélo. Donc les premières dépenses de l'État en soutien des collectivités vont être effectives. 152 projets, c'est bien. Ça veut dire que ça n'a pas été concentré sur quelques grandes métropoles bien visibles.
Mais qu'est-ce qui bloque, Pierre Cerne? Qu'est-ce qui bloque?
Ça ne suffira pas.
Pourquoi on ne va pas plus vite? Qu'est-ce qui bloque?
On va pas plus vite parce qu'il y a parfois un vrai manque de volonté politique, c'est-à-dire que tout le monde est pour le vélo. Vous entendrez plus d'élus, je pense, dire que le vélo c'est pas bien, que c'est ridicule, etc. On l'a entendu hein, encore à l'Assemblée nationale. Hein, et il y a des députés qui considèrent encore que tout ça ça sert à rien, que pourquoi pas donner des primes pour les baskets. Voilà, on l'a encore entendu en 2019, hein, ce genre de discours à l'Assemblée nationale, mais les élus locaux a priori ont compris. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on veut faire une vraie politique cyclable digne de ce nom, bah, ça veut dire qu'il faut donner de l'espace aux cyclistes sur la voirie. Et là, à partir du moment où on est dans une sorte de concurrence d'usage et qu'il faut prendre de la place, pour le dire clairement, à la voiture, ça commence à coincer. Donc, et c'est là que le volontarisme politique joue. C'est là aussi que on se rend compte que s'il n'y a pas un peu plus que des incitations, mais aussi des obligations, eh ben on va beaucoup beaucoup plus lentement.
Bien compris.
Par des choses comme évidemment l'indemnité kilométrique vélo qui n'est toujours pas obligatoire, ça ira moins
vite. Merci beaucoup Pierre Serre.
Et les garages et les parkings à vélo, c'est aussi un vrai sujet et ça prend de la place.
Merci beaucoup. Pierre Serre, président du club des villes et territoires cyclables. Merci d'avoir été l'invité de ce Droit de Suite et de ce journal.